Et là, en plateau, on a le plaisir de recevoir, comme chaque dernier mercredi du mois, Michel Favret, Constellation et Galaxie. Bonjour Michel.
Bonjour Joël.
Voilà, alors on va, concernant cette deuxième chronique, alors on va, là comme vous préparez le travail de manière vraiment judicieuse, minutieuse, alors déjà, comme j'ai tout un plan, je n'ai qu'à sur la route, mais on va peut-être faire un retour sur la chronique de septembre. Et vous avez annoncé notamment que le petit atterrisseur Philae, la sonde européenne Rosetta, devait se poser sur la comète 67P Chury, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, le 11 novembre. Donc voilà, vous avez plus d'infos.
Il n'y a pas plus d'infos, mais il y a eu un changement, c'est-à-dire que c'était la situation il y a un mois, et entre-temps, pour des raisons techniques, l'ESA a décidé, l'Agence Spatiale Européenne, de reporter au 12. Donc en fait, le rendez-vous n'est plus le 11, mais le mercredi 12 novembre, et bien sûr, on croise les doigts pour que tout se passe bien, parce que c'est vraiment une mission extraordinaire.
Alors, je vais suivre votre plan également, un petit coup de gueule. Alors là, on va voir d'où vous tenez certaines sources. Voilà, un petit peu d'humour également dans cette chronique.
Voilà, c'est par ma boulangère pour dire à quel point ça se diffuse. J'ai appris qu'une information circulait sur les réseaux sociaux à propos d'un phénomène qui nous ferait passer 3 jours dans la nuit noire, c'est-à-dire sans soleil autour du 21 décembre, qui est le solstice d'hiver. Alors bien sûr, c'est n'importe quoi. J'ai eu des informations par mon club d'astro. En fait, c'est une vieille interview d'un chercheur de la NASA qui parlait il y a plusieurs années, en 2011 je crois, de toute autre chose. C'est la possibilité que quand il y avait des très grandes éjections de masse coronale dont on a parlé le mois dernier, donc des éjections des éruptions solaires qui viennent en direction de la Terre, non seulement ça peut produire des aurores, comme on en a un petit peu parlé l'autre jour, mais surtout ça peut, pour des très 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 grosses éruptions, ça peut provoquer des problèmes dans les lignes de tension, et on peut avoir des coupures très importantes sur des régions entières, ce qu'on appelle en anglais des blackouts, d'où l'idée de noir. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que le soleil se lèverait pas pendant plusieurs jours. Je vous répète, c'est vraiment n'importe quoi, et je demande à vos auditeurs de ne pas participer à la diffusion de telles informations qui sont des bêtises complètes.
Oui, mais souvent, on prend pour argent comptant certaines infos. Voilà, donc voilà. C'est bien quand les érudits, les spécialistes remettent de l'ordre dans tout cela. Mais après, bon, c'est humain. Et en même temps, le clin d'œil, la boulangère, c'est vrai qu'il y a des lieux, on n'a pas parlé de bistrot,
Non.
Là où on refait le monde. Alors, comme on est en automne, c'est vrai que vous collez à l'actualité et nous parlez du ciel d'automne. Et pourquoi justement on parle de ciel d'automne? Et après, vous allez nous parler de constellations, Michel.
Voilà. Alors, la dernière fois, on n'avait pas parlé du ciel de l'automne parce qu'on était fin septembre, c'était encore un peu le ciel de l'été. Là, on est vraiment en plein dans l'automne. Alors, pourquoi part-on d'un ciel d'automne? Je ne vais pas expliquer en détail le phénomène, je le ferai sans doute dans une autre chronique, mais on va juste constater, si on regarde le ciel tous les soirs à la même heure, on va s'apercevoir que petit à petit, les étoiles et les constellations se décalent jour après jour vers l'ouest. C'est un décalage d'à peu près 1 heure en 15 jours ou 2 heures par mois. Ça veut dire que le ciel qu'on voit ce soir, par exemple 29 octobre à 22h, la même configuration de ciel sera dans un mois, le 29 novembre à 20h. Ce qui fait que mois après mois, saison après saison, le ciel change lentement, le ciel qu'on peut voir le soir. Et c'est comme ça qu'on parle du ciel de l'automne, par exemple, de l'hiver, du printemps ou de l'été, pour parler du ciel qu'on voit le soir plutôt côté sud. Alors, pour les constellations de l'automne, c'est toujours difficile de parler des constellations à la radio, sans dessin, sans figure. Je vais essayer d'évoquer juste les grandes formes qu'on peut repérer dans le ciel. Si vos auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent se reporter à notre site web où on trouve la carte du ciel du mois.
On reprécisera le... Alors, voilà. Vous me parliez de constellations vedettes, entre guillemets.
Voilà. Disons que nous, les astronomes, pour se repérer dans le ciel, il y a des constellations qui sont toutes petites. On s'accroche plutôt à des grosses constellations qu'on connaît bien. Et dans chaque saison, il y a une ou deux constellations bien représentatives de la saison. En automne, c'est Pégase. Tout le monde connaît, je pense, le cheval ailé de l'Antiquité. Alors, ça se présente en fait dans le ciel comme un grand carré qui est de biais, c'est-à-dire un angle en haut, un angle en bas, à droite et à gauche, et qui se trouve côté sud le soir assez haut dans le ciel. Ce serait à peu près 4 fois la largeur de la main à bras tendu. Donc, à partir de l'angle gauche de Pégase, on peut vraiment bien le reconnaître, un grand carré bien régulier avec des étoiles bien brillantes. À partir de l'angle qui est le plus à gauche, donc le plus à l'est, on peut voir 2 lignes d'étoiles qui vont en s'écartant tout doucement, un peu comme un angle aigu, un angle pointu. C'est la constellation d'Andromède. Dans la mythologie grecque, tout ça est lié à la mythologie, comme on va le voir, Andromède était une princesse. C'était la fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée, qui sont aussi dans le ciel. Mais pour les voir, il faut se tourner un peu plus vers le nord. Elles sont plus du côté du nord. Donc si on se met face à l'étoile polaire, où on peut se repérer avec une boussole éventuellement, si on regarde dans la direction de l'étoile polaire, le plus facile à repérer, c'est Cassiopée. Cassiopée, ça ressemble à un grand W dans le ciel. Donc c'est très très facile à voir. Céphée est juste un petit peu plus haute dans le ciel. Alors bien sûr, c'est un roi, mais dans le ciel, la figure, elle ressemble plus à une petite maison dessinée par un enfant. C'est-à-dire, vous voyez, un petit carré pour faire la maison et un petit triangle pour faire le toit. Sauf qu'en automne, pas de chance, elle est la tête en bas. Hein, c'est-à-dire, la pointe du toit est en bas et elle est juste un petit peu au-dessus de l'étoile polaire. Alors, je vous parle de ces quatre constellations, Pégase, Andromède, Céphée et Cassiopée, parce qu'en fait, elles nous racontent une légende. C'est la légende d'Andromède et de Persée. Pour être complet, il faudrait parler de deux autres constellations qui participent aussi à la légende. C'est la baleine et Persée lui-même. Alors, là, ça va être difficile à l'expliquer à la radio, hein, même avec les mains, on ne voit pas, ça ne sera pas facile.
Ah, c'est pas très visuel, la radio, bien sûr.
Il vaut mieux se reporter à une carte du ciel, donc par exemple celle qu'on trouve sur notre site web. Juste deux petites indications, Persée est sous Cassiopée, hein, donc un peu plus basse que le grand W qu'on peut voir dans le ciel. Et entre les deux, si les auditeurs ont un ciel bien noir, ils peuvent repérer une petite zone floue. C'est joli, hein, c'est un double amas d'étoiles et on peut le regarder avec des jumelles, c'est très joli. L'autre indication, c'est la baleine. On l'appelle la baleine, c'est à cause des chrétiens, en fait, avec l'histoire de Jonas. Mais dans l'Antiquité, il ne s'agissait pas d'une baleine, il s'agissait d'un monstre marin, hein, que les Grecs appelaient Kaitos, qui en latin est devenu Cetus, qui nous a donné les cétacés, par exemple. Donc, en fait, c'est le monstre marin. Alors, maintenant qu'on a ces six constellations, on peut un petit peu raconter l'histoire. Parce qu'en fait, toutes ces représentations du ciel, ces constellations qui sont du ciel, nous viennent des Grecs. Les Grecs pensaient à leur époque que le ciel était le domaine des dieux. Donc assez naturellement, les images qu'ils croyaient voir dans le ciel, dans le dessin des étoiles, ils ont essayé de les faire correspondre à leur légende, donc à leur mythologie avec les dieux, les rois, les reines, les héros. C'est un peu comme s'ils avaient utilisé le ciel comme un grand livre d'images. Alors pour la légende de Cassiopée, et surtout Andromède et Persée, voilà un petit peu l'histoire. Cassiopée était une reine, une femme très très belle, et elle vantait la beauté de sa fille Cassiopée, Andromède, qui était encore beaucoup plus belle qu'elle. Elle en parlait tellement qu'elle a fini par fâcher Poséidon, hein, ou Neptune des Romains, vous savez, le dieu de la mer. Et Poséidon était tellement fâché qu'il a lâché le monstre marin qui venait détruire tous les ports du royaume de Céphée. Hein, c'est ce qu'on a, on assimile aujourd'hui cette zone à l'Éthiopie moderne. Le seul moyen d'arrêter le monstre marin, c'était de lui livrer Andromède en sacrifice. C'est pour ça que souvent, quand on la représente en peinture, on la voit enchaîner un rocher face à la mer, parce qu'elle attend en fait le monstre marin qui doit venir la dévorer. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que le héros Persée, lui, était tombé amoureux d'Andromède au premier regard. Hein, c'était vraiment le coup de foudre. Et il a demandé à Céphée la main de sa fille s'il arrivait à lui sauver la vie. Alors le roi avait accepté parce qu'il pensait qu'il n'y avait aucun moyen de sauver sa fille. Mais en fait, Persée avait une ruse pour ça. Il est parti sur l'île où vivaient les Gorgones et la plus célèbre d'entre elles, la plus terrible aussi, la Méduse. Hein, vous savez, on la représente souvent horrible, couverte d'écailles avec les cheveux remplacés par des serpents. Elle avait un pouvoir terrible, elle était tellement horrible que d'un seul regard qu'on jetait sur elle, on se trouvait pétrifié, mais au sens strict, c'est-à-dire changé en pierre. Alors Persée, par la ruse, il va polir un bouclier pour faire un petit peu miroir, il va réussir à tuer la méduse et lui couper la tête, la mettre dans un sac, tout ça sans la regarder directement, donc sans être pétrifié. Le sang qui coule de la plaie de la méduse va aller jusqu'à la mer. Et au niveau de la mer, le mélange de ce sang avec l'eau de mer va donner naissance à Pégase, le cheval ailé. Et c'est grâce à Pégase que Persée va pouvoir aller à toute vitesse à l'endroit où Andromède est enchaîné face à la mer, juste au moment où le monstre marin va sortir de l'eau pour la dévorer. Il va sortir la tête de la méduse du sac. Le monstre marin va jeter un regard sur la tête de la méduse, se trouver changé en pierre et couler au fond de la mer. Andromède est sauvé. Et je suppose qu'ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Je connais pas vraiment la suite de l'histoire.
C'est au conditionnel. En même temps, chacun peut interpréter à sa manière. Alors, le ciel miroir des cultures.
Oui, alors, avec cet exemple, c'est un des plus bels exemples, hein, qu'on est dans le ciel en automne, puisqu'il y a six constellations qui participent à la même histoire. Mais en fait, mois après mois, si on apprend à connaître le ciel, on va voir que les différentes figures que les Grecs ont mises dans le ciel sont agencées de telle manière qu'elles nous racontent des histoires, un peu comme un grand livre d'images, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça n'est pas spécifique des Grecs. Dans toutes les civilisations, si on prend le monde arabe, les hindous, les incas ou les chinois par exemple, chaque civilisation a sa propre représentation d'image dans le ciel et ses propres légendes qui sont liées au ciel, hein, avec des constellations complètement différentes. Les Incas ont une constellation qui s'appelle le lama, par exemple, ou le renard. Les Arabes, je sais qu'il y a une constellation qui est la gazelle. Alors, c'est un petit peu comme si dans toutes les civilisations humaines, toutes les cultures qui nous ont précédées, les humains avaient voulu laisser dans le ciel la trace de leurs principales croyances, un petit peu, comme je le disais, si... un petit peu comme si le ciel était devenu un grand livre, le miroir de toutes ces cultures. Et c'est ce qui nous relie quand on regarde le ciel la nuit. Non seulement on a tout l'aspect scientifique que je peux développer à certains moments sur la connaissance des étoiles, etc., mais on a aussi tout ce lien culturel avec les civilisations qui nous ont précédés.
Très bien, là on a un petit peu de temps, hein, Michel, donc je sais que vous préparez longuement, c'est toujours avec passion bien sûr, ces chroniques. Donc là, si vous voulez aborder d'autres sujets avant de parler plus peut-être d'actualité, le ciel du mois, et puis donner les coordonnées.
Alors, dans le ciel de l'automne, on peut prendre maintenant un petit peu, je dirais, la vision inverse, la vision moderne, pour parler d'un objet qui est intéressant à regarder, à l'œil nu ou avec des jumelles, parce qu'il se trouve que c'est dans le ciel de l'automne qu'on peut voir l'objet le plus lointain qui soit visible à l'œil nu. Alors bien sûr, dans un ciel bien noir, hein, c'est pas en pleine ville avec tous les éclairages, hein, comme je l'ai déjà dit, la pollution lumineuse, qu'on peut voir un objet pareil. C'est une galaxie, c'est notre voisine, on pourrait dire, qu'on appelle la galaxie d'Andromède, parce qu'elle se situe dans la constellation d'Andromède, et elle est vraiment très loin de nous, et elle est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire qu'en fait, la lumière qui arrive dans notre œil, sur notre rétine ce soir, si on peut la regarder ce soir, en ce moment il fait beau, il faut en profiter, eh bien elle est partie il y a 2,5 millions d'années de là-bas, à peu près à l'époque où, vous savez, les hominidés gambadaient en Afrique, dans la savane africaine. On n'est pas à Lucie, c'est 3 millions d'années, mais on n'en est pas loin. Alors, je vais essayer d'expliquer à vos auditeurs comment on l'a trouvée, c'est pas très compliqué. On repart du carré de Pégase, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc un carré qui est de biais, dans le ciel, ce qui fait que la diagonale est pratiquement horizontale. Il y a une diagonale horizontale et une pratiquement verticale. Si on prend la diagonale horizontale de la droite vers la gauche, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, on arrive juste après le carré dans Andromède. La première étoile d'Andromède est un peu décalée, un peu plus basse que la diagonale. Et l'étoile suivante revient pratiquement juste sur l'alignement. C'est cette étoile qui nous sert de repère pour trouver la galaxie. Si à cet endroit-là, on tourne à angle droit, c'est-à-dire pratiquement droit vers le haut, on va trouver une étoile un peu moins brillante, un petit peu plus haute dans le ciel, puis une seconde encore un petit peu plus haute. Et si on fait bien attention, si on est dans un ciel bien noir, à côté de cette seconde étoile, on va voir un petit ovale un petit peu flou, c'est la galaxie d'Andromède. Alors il ne faut pas hésiter à la regarder avec des jumelles, hein, c'est très joli. On verra une grande ellipse nébuleuse, un petit peu comme du brouillard, si vous voulez, en forme d'un grand ovale, sur le fond étoilé. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait la galaxie, elle est énorme dans le ciel. Ce que nos yeux peuvent nous montrer, c'est juste la partie centrale, parce que c'est la partie la plus brillante, où il y a la plus forte concentration d'étoiles. Mais si on la voyait comme on la voit sur des photos, dans des livres d'astronomie ou des magazines, elle est énorme dans le ciel. Elle fait en longueur à peu près l'équivalent de 4 fois la taille de la Lune. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un très très grand ovale comme ça dans le ciel, mais malheureusement nos yeux ne peuvent pas le montrer. De temps en temps, je pense à mon chat, hein, parce que mon chat aime bien venir dehors regarder le ciel avec moi quand j'ai l'occasion de sortir. Et je me dis que lui, avec ses yeux beaucoup plus sensibles que les miens, il doit voir peut-être un objet magnifique comme ça dans le ciel. Il doit se dire, mais il est complètement aveugle, il voit rien. Il y a un grand truc là, il le voit pas.
On va parler planète également. Donc novembre, hein, on colle à l'actualité. Novembre qui arrive à grands pas.
Voilà.
Alors s'il y a, je vous laisse le soin bien sûr, comme c'est vous qui avez préparé. Alors la seule planète bien observable pour novembre,
c'est Jupiter. Hein, comme je l'avais déjà dit en septembre.
Alors, mais il faut être courageux, vous me précisez. Hein,
oui, il faut être courageux.
Vous allez expliquer pourquoi. Hein.
Elle se lève au milieu de la nuit. Hein, donc en fait, il faut plutôt l'observer en deuxième partie de nuit. Si on prend par exemple la mi-novembre, hein, autour du 15 novembre, elle se lève pratiquement à minuit. Le plus simple pour la voir, comme je l'avais dit en septembre, c'est le matin. On peut pas la rater. Hein, si on se lève un peu tôt, puis avec le changement d'heure, il fait encore nuit pratiquement à 6h30 le matin. C'est un point très brillant dans le ciel, c'est le plus brillant dans le ciel qu'on peut voir le matin. Il est presque au sud, il est très haut dans le ciel, à peu près, hein, je donne toujours des mesures par rapport au corps parce que ça parle à tous les auditeurs, c'est à peu près 4 fois la largeur de la main bras tendu, donc vraiment haute dans le ciel, et vraiment très 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 brillante. Hein. Elle est tellement brillante que quand le ciel s'éclaircit le matin, qu'il redevient bleu à l'aube et que toutes les étoiles disparaissent, on voit encore Jupiter pendant un bon moment. Si on a l'occasion de la regarder avec des jumelles, ça peut être intéressant parce qu'on peut voir, comme je l'avais signalé en septembre, les principaux satellites. Il y en a quatre, on peut pas toujours les voir les quatre, mais ça va faire comme quatre petites étoiles alignées autour de Jupiter.
D'autres rendez-vous concernant Jupiter, alors des dates que vous avez données de manière précise.
Jupiter a rendez-vous avec la Lune, en fait.
Ça pourrait faire une chanson d'ailleurs, voilà. Ça m'appelle quelque chose.
Le matin du vendredi 14 et le matin du samedi 15, on pourra voir une conjonction, je vous donne un terme un peu d'astronomie, en fait c'est tout simple, une conjonction c'est un rapprochement de deux objets dans le ciel, donc de la Lune et de Jupiter, assez proches, parce qu'ils auront entre eux un écart qui sera à peu près l'équivalent de la largeur de deux doigts bras tendus. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent aux étoiles filantes, d'après les spécialistes, c'est un petit peu comme la météo, on n'est jamais complètement sûr à l'avance, mais il y aurait un maximum de l'essaim qui s'appelle les Léonides, le lundi 17, plutôt après minuit, en regardant du côté de l'est. Et on peut essayer aussi le matin du vendredi 21, mais cette fois-ci plutôt du côté de l'ouest. Et on annonce qu'il y aurait peut-être 10 à 15 météores visibles à l'heure. Ça veut dire à peu près toutes les 5-6 minutes. Ça peut être un spectacle intéressant pour ceux qui auront le courage de rester dans le ciel. Et bien sûr, si la météo le permet.
Alors toutes ces infos et ces dates, elles sont reprises sur votre site internet.
Voilà, c'est le site de l'association Constellations et Galaxies. Donc www.constellationsetgalaxies.org. Et tout attaché, sans espace, sans rien. Dans la rubrique « Le ciel du mois », on va retrouver la carte du ciel, tous ces événements dont je vous ai parlé. Et bien sûr aussi, si on visite notre site, on peut en profiter pour aller voir les informations concernant nos interventions dans les écoles avec notre planétaire mobile et notamment en Gironde.
Voilà, toutes les coordonnées, c'est explicite sur le site internet.
Voilà, comment nous joindre par mail, par téléphone, etc.
Alors on va se revoir au mois de novembre.
Fin novembre, on reparlera, je pense, des galaxies, puisque c'est un peu un sujet de saison, en automne. Je vous ai parlé de la grande galaxie d'Andromède, sans expliquer vraiment ce que c'était. Pour vos éditeurs qui sont un petit peu plus familiers en astronomie, ils savent sans doute que des galaxies sont des ensembles d'étoiles énormes, de l'ordre de 100 ou 200 milliards d'étoiles. Et je pense que fin novembre, on reviendra sur le sujet pour expliquer un petit peu mieux quelle est cette structure de l'univers en partant de la Terre jusqu'à des grands objets comme les galaxies. Ça pourrait être un sujet intéressant.
Très bien. En tout cas, merci Michel Favré de venir chaque mois pour ces chroniques. On va repréciser le site internet qui permet de reprendre les infos que vous avez données, les dates. Donc constellations et galaxies, tout au pluriel, ça va sans dire, .org.
Voilà, merci.
Allez, merci à vous.